France Culture. Affaires culturelles. Arnaud Laporte.
Ce soir, je reçois Nicolas Peduzzi. Vers 19h45, le son du jour, ce sera Always Eight Goodbyes des Burning Heads. Vers 19h50, le grand tour de Marie Sorbier, qui est ce soir au musée de Giverny en Normandie pour nous faire découvrir la nouvelle exposition, l'impressionnisme et la mer, visible jusqu'au 30 juin prochain. Le tout est réalisé par Félix Levaché et Alexandre Fougeron, avec Alex Dang à la prise de son. Bonsoir Nicolas Peduzzi.
Bonsoir.
Votre film est à limite, sort en salle mercredi prochain, 1er mai, ce qui me donne l'occasion de vous accueillir ce soir pour parler de ce film, bien sûr, mais aussi revenir sur les précédents, sur le parcours, sur vos méthodes de travail. Il faut dire que la pratique artistique coule dans vos veines, puisque votre mère, Pénélope Chauvelot, dont nous reparlerons, a été photographe reporter pour Sigma, l'agence Sigma, a couvert des conflits au Vietnam, au Cambodge, au Liban, en Syrie, puis elle a photographié ensuite des plateaux de théâtre, des plateaux de cinéma, elle a fait des portraits d'artistes. Votre père, Richard Peduzzi, est lui peintre, designer, décorateur, scénographe de théâtre et d'opéra. Rappelons qu'il a été, à partir de 1968, le scénographe de tous les spectacles de Patrice Chéreau, entre autres spectacles. Il a dirigé l'École nationale supérieure des arts décoratifs, puis la Villa Médicis. Donc, tout comme votre sœur, également créatrice, vous avez donc grandi quand même dans un environnement artistique. Qu'est-ce que vous pensez que ça a imprimé en vous, dans l'enfance, dans l'adolescence ?
Ça a été, il y a eu plusieurs étapes en fait. C'est, d'abord, au départ, c'était pas mal de rejet du milieu artistique et plutôt l'art, je le cherchais ailleurs. Donc, c'était ça a commencé par le graffiti et c'était toute la culture, toute subculture comme on dit, le hip-hop, le graffiti, etc. Donc, je suis allé vraiment aux antipodes comme on dit. Mais finalement, je me suis rendu compte que c'était une fausse rébellion parce qu'en fait, mon père, en relisant son livre là récemment. J'ai découvert qu'on avait plein de choses d'attrait en commun pour quelque chose un peu des marges, la marginalité, la rue, etc. Donc j'ai reproduit des trucs tout en voulant faire mon rebelle finalement assez banal qu'il avait fait lui aussi quoi.
C'est l'ADN génétique. Ouais. Ça. Le cinéma très vite va devenir une de vos passions. Il y a un vidéoclub dans le quartier, pareil, vous étiez un des meilleurs clients.
Ouais, c'est ça. Surtout pour les films X à l'époque.
Et vous aviez l'âge ?
Non, j'avais pas l'âge, je blague.
Non, les films d'horreur.
Les films d'horreur. Non, c'était vraiment les films d'horreur. Et oui, c'était le. Il y avait plein de magasins de DVD. Je passais des heures à choisir des DVD dans un petit. C'était Rue des Martyrs.
Et puis, vous êtes d'abord tenté par le métier de comédien. Et vous allez notamment vous installer aux États-Unis carrément pour y suivre les cours de Susan Batson, qui est une coach, qui en a coaché quelques-uns ou quelques-unes. Vous allez faire quelques expériences dans ce domaine, théâtre ou cinéma. Vous vous sentez pas vraiment à votre place en tant que comédien ?
Non, je me sentais à ma place. À ce moment-là, c'était surtout tout ce qu'il y avait autour, les castings. Après, bon, c'était aux États-Unis, j'avais quand même un accent français, un accent français assez fort. Et c'était compliqué, le côté se vendre, d'aller chercher aussi des boulots, en fait. J'avais du mal à faire ce pas-là et du coup je me suis vite intéressé à côté à la mise en scène, d'abord de théâtre, donc j'ai mis en scène un propre one-man show et ensuite plutôt à la réalisation et j'ai fait des courts-métrages avec des amis un peu de façon amateuriale comme ça et voilà, donc ça m'a toujours à côté eu l'envie de... Je me suis dit qu'en fait... j'aimais beaucoup jouer sur les planches, mais tout ce qui allait avec était plus compliqué pour moi, quoi.
Alors que derrière la caméra, là, c'était une place plus naturelle.
Bah, c'était plus naturel. Ça s'est né avec une envie, en fait, des rencontres. Je vivais aux États-Unis à l'époque et c'était une histoire d'amour qui m'a donné envie de filmer et de faire du documentaire. Au début, c'était pas forcément l'idée. Et en fait, j'ai rencontré un lieu, une géographie, la ville de Houston. Et j'ai eu tout de suite envie de faire un film sur ça. Et voilà, ça s'est fait un peu par une rencontre, un coup de foudre en fait. Et voilà.
Mais avant ça quand même, Nicolas Peredozzi, il y a eu deux courts-métrages, vous l'évoquiez, dans votre quartier, celui de Pigalle. Qu'est-ce que vous apprenez en les faisant ?
J'avais pas fait d'école de cinéma, du coup j'ai pas mal appris sur l'équipe. C'était des courts-métrages pour le coup plus financés que les longs-métrages que j'ai fait maintenant. J'ai eu plus de moyens à ce moment-là. J'ai un ami qui a une marque de vêtements qui s'appelle Pigalle qui m'avait aidé aussi à le produire. Donc c'était un objet qui était un peu un ovni. On avait présenté le court métrage pendant la Fashion Week et c'était à la place d'un défilé. On avait fait un court métrage dans notre quartier de Pigalle et voilà, donc on l'avait présenté. Et ça m'a aidé en fait à apprendre des choses que je connaissais pas, comme la technique, les équipes de tournage, découper des scènes, mettre en scène aussi, parce que c'était vraiment de la fiction. Et en faisant surtout plein d'erreurs qui m'ont permis d'apprendre aussi ce qu'il fallait pas refaire, comme ne pas prendre, pas avoir un... Bon, c'est pas vrai parce que j'ai continué à faire un peu les mêmes erreurs, mais en même temps...
C'est-à-dire, quelles erreurs ?
Par exemple, le son, je privilégiais beaucoup l'image. J'avais fait venir un ami qui était preneur de son et il fumait trop de pétards à l'époque, je pense. Il s'endormait de temps en temps, donc voilà, des choses comme ça, quoi. Qui sont un peu des évidences qu'on a fait des écoles de ciné, mais ça, c'était vraiment une école, c'était un apprentissage. On s'est bien amusé surtout. Je sais pas si des courts-métrages que moi je montrerais aujourd'hui avec beaucoup de fierté, mais ça m'a permis d'apprendre pas mal de choses quand même.
Et puis, il y a des gens importants, des influences revendiquées, Nicolas Peredozzi, parmi lesquels le cinéaste Harmony Korine, hein, on dit comme on veut, mais pour bien qu'on comprenne, je dis Korine. Mm-hmm. On va l'écouter, c'était au micro d'Antoine Guillaume dans Plan Large en octobre 2017.
I don't really improvise in the way that, like, you would say, like, improvisation.
En fait, c'est pas vraiment que j'improvise, mais j'arrive sur le plateau, j'ai en tête quand même une idée plus ou moins vague de scénario, mais ce qui m'intéresse de voir, c'est ce qui va se passer, comment ça va se passer. Je demande jamais aux acteurs d'exécuter quelque chose de très précis, parce que tout ça, c'est une question d'énergie. C'est un petit peu comme un jeu, si vous voulez. Et ce qui m'intéresse, c'est de voir jusqu'où, tous ensemble, on peut aller, quels sont les accidents qui vont se produire, l'inattendu. Ce que j'essaye de faire surgir, c'est l'étrangeté et quelque chose qui vraiment nous soulève tout en étant inexplicable. C'est ça qui me fait vibrer.
Alors cela me permet, on va voir comment, d'en venir à votre premier long métrage, Stars and Bell, sorti en salle en 2018, un film qui suit donc Taylor Renzo, fille unique du plus grand exploitant pétrolier du sud des États-Unis. On imagine, on a du mal à imaginer la chose, mais au moment du tournage, elle est au milieu de la vingtaine. Il faut savoir que son père est mort quand elle avait 14 ans et qu'elle hérite donc de 500 millions de dollars, ce qui n'est pas tout à fait au goût de sa mère, qui va lui intenter un procès, qui va aussi la faire interner pendant un an et demi, sa fille, dans un centre de désintoxication où paradoxalement, c'est là qu'elle devient dépendante, notamment aux amphétamines qui lui sont prescrites à ce moment-là. Ce film, Nicolas Peredozzi, a reçu le grand prix fort mérité de la compétition française au FID à Marseille, le grand festival international du film documentaire. Un film qui est vraiment une œuvre unique en son genre, puisque vous arrivez à filmer Taylor et son entourage, peu fréquentable a priori, à capturer des scènes qu'on a peine à croire réelles, qui auraient leur place dans un film de fiction. Et c'est là que j'en reviens à Harmony Korine, ce qui vous différencie de lui justement, c'est il s'agit pas de fiction. Quand Gorin dit je me prends des gens et je vais voir ce qui va se passer, c'est quand même un geste de réalisateur de fiction. Vous, Nicolas Peduzzi, c'est le premier long documentaire. Quelle méthode est-ce que vous avez mise en place sur ce tournage-là?
La méthode, c'était assez particulier. C'est vrai que c'est vraiment le premier film qui m'a donné envie de faire du cinéma, entre guillemets, de façon professionnelle, si on peut appeler ça professionnel. Mais j'ai eu beaucoup de chance avec ce film. J'en ai parlé à une amie qui venait de sortir d'une école de cinéma. Et je lui ai parlé de cette idée. C'était un peu une obsession, j'en parlais à tout le monde. Je lui ai parlé de l'histoire de Taylor, avec qui j'étais très proche. On n'était plus ensemble, mais j'avais eu une histoire d'amour plus jeune. On était restés amis, assez proches, quoi. Et je lui ai dit, voilà, j'ai envie de filmer Taylor. J'avais écrit un traitement. Et elle me dit, écoute, mon beau-père vient de vendre sa compagnie de tech. En fait, il veut investir dans le cinéma. Je veux bien le faire avec toi, ce film, enfin t'aider à le faire. Et du coup, c'est vraiment tombé du ciel. Je travaillais à l'époque, j'avais un rôle, je faisais une apparition dans une pièce de Luc Bondy, Ivanov, et j'avais qu'une envie, c'était de partir au Texas faire ce film-là, enfin retourner au Texas parce que je venais de quitter les États-Unis. Et du coup, on y va avec une carte de crédit, c'est elle qui l'a gérée, et on filme là-bas. On rencontre Taylor d'abord avec son copain de l'époque, et elle nous ouvre vraiment les portes de sa famille. Elle était partie prenante du film, enfin elle participait presque à l'écriture du film en fait finalement. Je me souviens que la première soirée, c'était une scène où elle me présente un ami à elle qui est son cousin. Qui commence une scène où il chante avec sa copine et il se règle des comptes en chantant. Et là, tout de suite, je me dis, waouh, il se passe quelque chose. Sauf qu'on n'arrive pas à gérer techniquement cette scène, justement, parler du son. Il y a eu un problème de son. Et donc, on filme pas mal là-bas tout ce qui se passe avec Taylor, sa famille. Elle nous présente son oncle qui est complètement hallucinant. Je me dis qu'il y a vraiment un truc. Il y a quelque chose qui se passe de l'ordre de la fiction, justement. Et on retourne à Paris avec des rushs. Et là, on se rend compte qu'on a que 20 minutes utilisables de rush. Donc du coup, je décide de faire venir un chef-op. Et les 20 minutes qu'on avait, on suffit quand même à la personne qui avait investi de se dire, ok, je veux bien quand même vous faire y retourner, parce que c'était un peu comme on l'avait envisagé comme un repérage. Et on y retourne. Et là, ma méthode, enfin, pour répondre à votre question, ma méthode de travail, c'était, j'ai beaucoup écrit en passant du temps avec Taylor, et on a jamais mis en scène des choses à ce moment-là, mais quand même, il y avait l'idée de rester proche de la fiction aussi. Et donc il y avait quelque chose de très écrit, et c'était étonnant parce que d'avoir écrit quelque chose en amont et de se dire on va essayer de faire une fiction, ça nous a permis de suivre une ligne quand même finalement qui flirtait toujours avec la fiction. Et après, c'est sûr que l'envie de faire ce film, ça m'est venu aussi parce qu'elle m'a présenté son oncle, que je sentais qu'il y avait un endroit où il y avait vraiment quelque chose qui m'attirait. Des enjeux aussi familiaux et surtout Taylor, quoi. J'avais envie de dire quelque chose sur elle, mais il y avait pas à ce moment-là, il y avait pas de méthode, il y avait beaucoup de découvertes en fait de ce qui se passait autour d'elle.
Ouais, mais on voit là dès ce premier film, et on va évoquer le suivant et celui qui sort mercredi prochain, très grande liberté qui passe notamment, et on va y revenir dans un instant, par l'utilisation de la musique, en l'occurrence pour Thousand Bell, elle est composée par Maud Jeffrey. C'est un marqueur de votre cinéma, la musique, mais on pourrait dire que c'est la liberté qui est le marqueur principal. Pas d'orthodoxie.
Ouais, j'ai compris après. Je suis arrivé très assez naïvement dans le monde du documentaire, et j'ai compris après qu'il y avait quand même pas mal de règles Et par exemple, la musique, c'est un truc qui, j'ai l'impression, dans certains endroits, qui se fait pas trop. Et il y a des chapelles comme ça, et on m'a souvent dit, mais pourquoi tu mets de la musique là?
Ça se fait pas.
Ça se fait pas trop. Il y a un truc, et je me suis dit, en fait, c'est des personnages qui écoutent tout le temps de la musique, qui ont une façon de parler qui est musicale. Enfin, je dis des personnages, même personnage, par exemple, c'est des choses qu'on m'a reproché de dire le mot personnage. Mais quand je dis personnage, c'est quelque chose, c'est parce que je trouve qu'il y a quelque chose aussi de l'ordre de la littérature, presque, des fois, chez certaines personnes qu'on peut rencontrer. Et pour moi, c'est un compliment. En italien, on dit personaggio de quelqu'un qui marque quand on le rencontre. Et personnage, pour moi, c'est voilà. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de règles, en fait, je m'en suis rendu compte que de mettre autant de musique, ça pouvait être vu comme une marque de mauvais goût aussi, des fois.
Donc, je valide ce mauvais goût. I had a jump up in a cat like a race car. I was just up in a trap with the AR. Had to go and get a bag, make them pay more. They know we'll push a button like a space bar. I was just up on the block with the pack on me. Now I'm dripping in the mall with the racks on me. I was wanna buy a nigga ass on me. Game made for free, we gon' tax on me. I had a jump up in a cat like a race car. I was just up in a trap with the AR. Had to go and get a bag, make them pay more. They know we'll push a button like a space bar. I was just up on the block with the pack on me. Now I'm dripping in the mall with the racks on me. I was wanna buy a nigga that's on me. Game made for free, we gon' tax on me. I came up on a 100, it ain't take long. If anything, any tweaking, he get it brain blown. Baby say she like to fuck me with my chains on. Little bitch, I make hits on my song. They love when I smile, cause my wife's pretty. I just left sex, blew it like 30. It ain't about money, it ain't my worries. That the main reason why my Sprite dirty. I came up on a lick, got a big check. You can't name that many bitches, I ain't hit yet. Tryna keep up with the kid, I ain't impressed. I gave him all they ideas like Pinterest. Someone water on me now, make a blood drown. Fool daughter, treat a model like a buzz down. On écoute là un des derniers morceaux en date d'OMB Bloodbath, une rappeuse de Houston que j'ai découvert comme beaucoup grâce à votre deuxième long métrage, Nicola Peduzzi, Ghost Song. Mais avant de parler d'elle et de ce film, on va écouter d'autres personnes importantes aussi dans votre panthéon. Les frères Safdi, toujours au micro d'Antoine Guillot, c'était toujours dans Plan Large sur France Culture en 2017.
Mais moi, je crois que on ne peut comprendre un endroit, un lieu, que par les gens qui l'habitent. Et nous faisons notre casting en trouvant des gens dans la rue. Jennifer Vendetti, par exemple, fait ce casting avec nous. Et elles comprennent vraiment ce que l'on cherche. Pourquoi on peut vraiment trouver le roi du bloc, le roi du coin, le roi du quartier, et en faire vraiment travailler avec lui. Quelqu'un que tout le monde connaît dans le quartier, mais peut-être que tout le monde n'en parle pas, mais on les met dans nos films. On essaie de développer leur capacité d'acteur, on essaie de les mettre dans les films, de les mettre à l'aise. Et c'est une projection un petit peu de l'idée d'en faire une vedette et d'essayer de continuer de montrer les gens qui sont dans la vie. Et ils deviennent quelque part les points signifiants de toute une culture, de leur culture locale. Et c'est très important pour comprendre une ville, d'avoir ces gens-là.
Alors pour Ghost Song, on est dans une certaine façon tout à fait dans la logique des frères Safdi, Nicola Peduzzi, puisqu'avec Alex, et qui est OMB Bloodbath, on les met aussi avec Will, le cousin de Taylor. C'est vraiment le portrait de Houston que vous faites. Alors comment est-ce qu'ils sont devenus, et moi je vais reprendre ce mot, les personnages principaux de ce film? Celui-là avait été présenté en 2021 à la CID à Cannes et sorti en 2022. Pourquoi Alex, pourquoi Will?
Alors Will, déjà, j'avais rencontré avec Taylor et on s'était lié d'amitié comme ça. On avait passé du temps même confiné ensemble parce qu'il était venu le pauvre en Europe pour la première fois de sa vie et c'est une semaine avant le confinement. Du coup, on s'est retrouvé en Normandie à deux, un peu stressé. Et on était devenus proches et il y avait Alex que j'avais rencontré pendant aussi le tournage de Sardin Bell. Par hasard, je passais du temps dans le quartier du Third World, qui est un peu le quartier historique de Houston, qui a vu naître DJ Screw, mais plein d'autres musiciens comme ça du milieu de cette époque des années 90, qui ont influencé aujourd'hui tout le mouvement hip-hop. Enfin, vraiment, ça vient de là, quoi. On oublie souvent que c'était très local, parce que ça restait dans le sud et très indépendant. Il y a un côté un peu punk, comme ça, dans leur musique, sans label, très indépendant, ouais. Ils passaient les vinyles de main en main. Et du coup, moi, j'étais fasciné par ce mouvement-là. J'avais lu pas mal de livres sur la question. Et je me baladais dans le Third World, qui est vraiment au centre de Houston, en fait. Finalement, c'est pas en
banlieue. C'est difficile à savoir où est le centre de Houston, mais c'est le vrai, celui-là.
Ouais, c'est le vrai de vrai, quoi. C'est vraiment tout au milieu. Et c'est juste à côté des grosses universités et de tous les le quartier des musées aussi. Et mais qui est resté quand même un quartier assez très populaire même, même si en train de se gentrifier à toute allure, avec ses maisons victoriennes basses comme ça, des arbres typiques du sud. Et on s'est baladé, on allait voir le magasin de DJ Screw, qui est assez fameux parce que s'il était dans un clip de Travis Scott il y a pas si longtemps. Et du coup, on a une station essence. J'étais avec mon chef-op italien Francesco. Et on voit un groupe de jeunes, il y avait une cinquantaine de jeunes, ils avaient pris d'assaut un peu le truc, ils avaient improvisé une rave hip-hop, et nous on y va un peu comme des idiots, on s'approche, et là ils étaient tous armés, parce qu'on est au Texas, et il y a Alex qui arrive, Bloodbass donc, et qui nous pointe, on avait une caméra, qui nous pointe un peu comme dans un clip, mais un pistolet qui était vraiment un pistolet. Et je dis à Francesco, en italien, viens on se casse, elle a un gun, il fait non, il n'y a pas que elle, ils ont tous des guns. Donc on part, et là elle nous arrête et elle rigole, elle entend qu'on a un accent en fait, et je pense que ça a aidé un peu, parce qu'on n'était pas américain de là-bas. Et elle me dit, vous êtes d'où? Je dis français, et tout de suite il y a un truc dans le mouvement de hip-hop, de la France quoi, c'est quand même, on en entend souvent parler, Paris, etc. Et le lendemain, c'est elle, je lui file mon numéro, et le lendemain c'est elle qui m'appelle, elle me dit, je veux que tu me fasses un clip.
Et c'était pas une question.
Hein. Non, ouais, c'était pas une question. Et je flippe un peu, mais j'ai quand même curieux, j'y retourne et là, en fait, hyper, elle nous a ouvert vraiment les portes, accueilli, présenté sa grand-mère, ses potes, nous explique aussi toute l'histoire de la guerre des gangs dans son quartier, de la musique surtout, parlait beaucoup de musique. Et voilà. Et un an après, on est resté en contact, on s'écrivait souvent. Un an après, ça m'a donné envie de faire quelque chose sur la ville, pas que sur elle, mais sur la ville, sur Will, sur les musiciens de Houston, qui est cette ville qui est très conservatrice, mais en même temps qui fait naître des gens comme elle, comme lui, comme DJ Screw, comme plein d'autres musiciens. Et voilà, j'avais une fascination pour cette ville comme ça, vraiment pas touristique.
Alors cette fois, c'est vrai que la musique est complètement dans le film, puisque Alex comme Will sont tous deux musiciens, ils s'expriment beaucoup, et ils expriment beaucoup à travers elle, mais la mort aussi est quand même très présente dans ce film, à travers les histoires personnelles, là encore, d'Alex et de Will, mais il y a aussi cette tension propre à la saison des ouragans, Nicolas Peduzzi, parce que vous avez quand même choisi pour le tournage, en tout cas pour partie, d'y aller à cette saison-là, parce que la ville est en état d'alerte, il y a quand même quelque chose, et une tension particulière.
Ouais, c'est ça en fait, vraiment. En fait, j'avais vu déjà sur ils avaient subi en 2017, je crois, Hervé, qui avait vraiment inondé la ville. Et ça avait fait comme une espèce de Venise contemporaine.
Ça remontait du port de Houston,
ouais,
jusqu'à la ville.
Tout avait remonté et les gens se baladaient en bateau, quoi, en canoë, etc. Et je dialoguais avec Will, avec Taylor aussi, qui avait passé tout son l'ouragan avec son bébé qui venait de naître, et Bloodbass, qui était elle en studio, qui avait même pas vu l'ouragan passer tellement elle était tout le temps dans le studio en train de rapper. Et en fait, le studio à Houston, ils appellent ça la Suisse, et c'est le seul endroit où il n'y a pas de règlement de compte, c'est interdit, c'est un truc tacite, quoi. T'as des mecs de gang adverses qui se croisent, et quand t'es dans un studio d'enregistrement hip-hop, t'es sûr qu'il va rien t'arriver. Donc elle était tout le temps dans le studio. Ce qui était pas très, finalement, parce que c'est sympa d'avoir une scène d'enregistrement, mais tout le film sur un enregistrement de rap, ça aurait été moins marrant. Mais voilà, donc chacun avait passé son ouragan comme ça, et on y est retourné. Il y avait pas effectivement d'ouragan, c'est quelque chose qu'on a construit au montage, mais il y avait la menace qui était tout le temps là, parce que c'est la saison des pluies et des inondations, et il y a souvent cette menace qui est là, un peu à la radio, un peu sur les portables, etc. Et donc on sent que, je me racontais en tout cas moi, que que ces personnes aussi a été poussées, cette façon de parler, cette verbatine que Will a, aussi Bloodbath, très rapide et tout, comme si c'était une urgence, quoi. Et je trouvais ça pas mal de le mettre dans le film.
Deuxième film, deuxième très grand film. Moi, je l'ai vu deux fois déjà, comme Southend Bell. Je reverrai volontiers. Merci. Mais musique toujours, avec votre choix musical, qui nous permet de commencer à parler de ce nouveau film, État Limite, qui sort mercredi prochain au cinéma, dans lequel on entend le morceau qu'on va découvrir dans un instant. De quoi s'agit-il, Nicolas Peduzzi?
Alors, c'est un morceau de Evil Grimace, qui faisait partie du groupe Casual Gabber. Et j'aime beaucoup ce morceau, je l'avais vu dans un film qui m'avait marqué, un film qui a été vu nulle part, mais que j'ai vu au Festival de Fame. Et c'est un film qui a été réalisé par un des membres de Casual Gabber, et qu'ils avaient mis, ils voulaient même pas le diffuser, ils l'avaient mis sur YouTube, je crois, et le mec du festival, qui s'appelle Benoît Ike, l'a ressorti, et c'est un truc hyper libre, avec de la musique tout le temps, et ils filment leurs potes qui sont en concert, etc. Et je m'étais pris une claque, et je me souviens, j'étais membre du jury... À cet endroit-là, j'étais le seul à avoir adoré ce film. Mais il est quand même, je le trouve, incroyable. Donc cette musique-là était dans le film.
On l'écoute.
Ain't nobody ever gonna take me out my way. Make me feel feel a certain way. I make music for my people.
Evil Grimace pour mes gens, à retrouver dans ce nouveau film de Nicolas Peduzzi, Et à limite, qui sort mercredi prochain. Alors on va suivre, cette fois, on quitte le Texas pour Clichy et l'hôpital Beaujon, puisqu'on va suivre, pendant la durée de ce film, Jamal Abdelkader, qui est psychiatre de liaison, ce qui veut dire qu'il doit s'occuper des gens qui arrivent aux urgences en psychiatrie, qui doit aussi s'occuper des personnes qui ont des maladies génétiques graves, qui ont besoin de soins donc, au quotidien. Il s'occupe aussi d'autres personnes qui sont isolées, qui sont seules, qui sont souvent aussi mourantes. Donc lui, il intervient dans tous les services. Et en plus, il doit aussi former les internes, puisqu'il est le seul psychiatre senior, enfin au moment du tournage, hein, la temporalité du film. Beaujon, c'est en plus un hôpital spécialisé dans les polytraumatisés, c'est-à-dire des grands accidentés, dont évidemment beaucoup de tentatives de suicide, des gens qui se jettent d'un pont, d'une fenêtre, sous la rame d'un métro, avec des très très lourdes blessures. Alors évidemment, la première question, c'est comment est-ce que vous avez rencontré Jamal Abdelkader, Nicolas Peduzzi, comment est né ce film?
Alors bah déjà il y a eu Beaujon en premier lieu. Mon père avait été transplanté à Beaujon dans les années 90 dans le service du docteur Belghiti et donc j'avais passé, surtout ma mère avait passé beaucoup de temps là-bas à son chevet. La transplantation à l'époque c'était quand même un truc qui était beaucoup plus risqué. Il avait je pense 40% de chances de s'en sortir, mais il a rencontré des gens merveilleux qui l'ont vraiment sauvé la vie, surtout ce médecin qui est un grand chirurgien aussi d'ailleurs qui s'est toujours battu pour rester dans l'hôpital public. On avait des hôpitaux d'ailleurs à Houston, c'est marrant, qui voulait l'acheter, mais qui voulait le récupérer, ouais. Et lui il a toujours refusé parce qu'il avait cette mission là de rester à Beaujon. Et du coup voilà, c'était un grand monsieur, et il y avait Beaujon, et pendant le Covid, c'était le premier confinement. J'ai eu envie de retourner à Beaujon et de voir un peu ce qui s'y passait, mais sans trop savoir vraiment pourquoi. D'abord, l'idée, c'était de faire quelque chose sur les soignants, les internes qui faisaient leurs premiers pas. Et avec ma productrice Karine Runiewski, on discutait un peu de ça. On était en train de parler aussi peut-être de faire quelque chose, d'essayer de faire quelque chose pour Arte, sur les soignants. On savait pas trop, donc j'ai passé pas mal de temps en service hépatologie. Je me suis rendu compte que c'était trop compliqué à filmer, et du coup au bout de 2-3 mois je descends aux urgences, et là je vois un mec un peu atypique avec une blouse et des baskets, et qui était en train de gérer des situations, qui parlait à la police, qui parlait à ses collègues, et je me rends compte que c'est le psychiatre de l'hôpital. Et d'abord il m'a fait un peu comme Bloodbath, Alex, il m'a embrouillé quand il m'a vu le filmer en tout cas, et finalement hors caméra je lui ai expliqué qu'on faisait un film d'abord sur l'hôpital public, qu'on recherchait un peu. Et on est devenu assez vite, on a presque le même âge, il est un peu plus jeune, mais on est devenu assez vite amis, quoi. Et il m'a dit, ok, je veux bien, montre-moi ton film. Donc je lui dis, je lui envoie sa nouvelle, je dis, c'est foutu, il va plus jamais vouloir être filmé. Et en fait, non, il a vu sa nouvelle, il m'a dit, ah, bah, j'aime bien la façon dont tu filmes ces gens-là. Et du coup, j'accepte, et suis-moi, et je l'ai suivi pendant 2 ans et demi.
Deux ans et demi.
Ouais. C'était éparpillé sur le temps mais étalé sur le temps, mais ouais, c'était 2 ans et demi. Ouais. J'ai fait venir ma mère qui faisait les photos aussi.
On en parle dans un instant. Mais plusieurs films récents, ça vous a pas échappé, s'intéressent à la psychiatrie. Alors, il y avait eu déjà Raymond Depardon il y a un certain temps avec 12 jours, sur l'internement psychiatrique sans consentement, c'est très particulier. Le film sur l'hôpital récent, le suite Clara Simon, Notre Corps, suite Sébastien Lifshitz, Madame Hoffman qui vient de sortir. Et il y a donc aussi la trilogie ou le triptyque de Nicolas Philibert sur le monde psychiatrique. Alors, je sais pas si vous en avez vu certains, tous ou aucun, mais cet intérêt pour l'hôpital et singulièrement pour la psychiatrie, vous pensez que ça dit quoi sur notre société?
Je pense que ça dit quelque chose, ouais, évidemment, sur notre société, la façon dont on traite les gens qui sont un peu atypiques, qui sont considérés comme des fous entre guillemets, qui sont à côté, qui sont pas dans la productivité, qui sont même les gens excentriques, je trouve qu'on est très en retard dans notre société. Quand je vois, ça m'arrive d'être à des dîners, il y aura toujours une personne dans un groupe, pas que des dîners, dans un groupe, la personne qui est un peu étrange, on va souvent l'avoir différemment. Et pour moi, l'hôpital, en tout cas l'hôpital public, l'hôpital de Beaujon, qui est pas un hôpital psychiatrique, donc de se rendre compte qu'en fait il y a qu'un médecin psychiatre comme ça et qui est partout à tous les étages, et on le film c'est un fragment de son travail, on s'en rend bien pas compte, mais ça a été vertigineux pour moi. Je savais le manque de moyens en psychiatrie depuis 30 ans etc, mais je m'en rendais pas, de le voir comme ça et de voir que le matin il arrive et qu'il a un tableau avec le nombre de gens qui ont fait des tentatives de suicide très graves. Il y a un tableau comme ça avec P, ça veut dire précipitation, donc des gens qui sont défenestrés, et souvent des gens très jeunes, surtout pendant le Covid. Après le Covid, ça s'est multiplié, je crois, par 10, un truc comme ça. Enfin, pendant le Covid. Et du coup, je me suis dit, en fait, il y a un décalage énorme dans notre société, avec même par rapport à la médecine et au progrès qu'on a fait. C'est-à-dire qu'on est encore tellement en arrière là-dessus, sur la façon dont on accueille en fait les gens à la marche, quoi.
Avec ce film, encore une fois, ce sont les personnes qui font le film. Un documentaire, ça nécessite du temps. Vous avez dit un peu plus de 2 ans et demi en tout, pendant la période pendant laquelle vous êtes allé sur place, Nicolas Peduzzi, mais nécessite bien sûr que les gens que vous filmiez s'engagent dans le film. Vous le disiez pour Taylor, pour Alex, pour Will, pour Jamal Abdelkader, mais aussi il y a beaucoup de patients. Là, c'est quoi? C'est un pacte entre eux et vous?
C'est surtout, alors là, on a eu, à chaque fois, en fait, c'est quand même avoir quelqu'un qui vous accueille dans son environnement, dans son milieu, comme avec Alex, qui nous a accueillis quand même dans son quartier. C'est comme si on était invité, quoi. Pour le coup, c'était Jamal. Et c'est vrai que ses patients avaient énormément confiance en lui. Il l'aimait beaucoup. Pas que les patients, mais les gens autour à l'hôpital, les soignants, les aides-soignants. Tous les gens que j'ai pu rencontrer. Il avait une aura comme ça. Il avait déjà mis en place pendant le Covid un atelier théâtre. Parce que beaucoup de jeunes qui suivent étaient très isolés et donc il s'est dit je vais faire ça un peu, il a fait un peu entre un peu illégalement entre guillemets, où il avait pris une salle qui était réservée à une salle de crise Covid, et il avait organisé ses groupes de théâtre parce qu'il s'est dit en fait c'est plus dangereux qu'il soit isolé, je vais faire un groupe de théâtre et donc pas mal des gens qu'on voit dans le film participaient déjà à son groupe. Et donc on a été accueillis, ça a été assez facile, quoi. Ils nous ont accueillis. Et c'est vrai qu'il y a un pacte, mais il y a un dialogue. Il y a des erreurs que j'avais faites, notamment avec Sandon Bell, que j'ai essayé de pas reproduire là. C'est-à-dire que même pendant le montage, en fait, je discutais beaucoup avec les patients, et certains des patients m'ont même dit, en fait, là, il y a des images, il y a des trucs que t'as filmé. J'aime un peu plus personnel sur ma maladie, j'aimerais pas qu'on les mette, mais ça va. Donc, en fait, dans le dialogue, c'était vraiment de discuter en permanence, d'être très clair sur ce qu'on voulait faire. Et Jamal, je me fiais pas mal à son expertise aussi. Mais oui, il y a un accord tacite, quoi, qui se fait à un moment, et on est invité quand même.
À propos de montage, évidemment, un documentaire se joue beaucoup là-dessus. Vous évoquez le fait que vous aviez invité, si je puis dire, votre mère, Pénélope Chevelot, à faire des photographies de l'hôpital Beaujon pendant que vous y tourniez, photographies dont certaines se retrouvent dans votre film. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie de cette utilisation-là, de ce régime d'images différent dans la structure globale du film?
C'était depuis le début, j'avais envie, là pareil, c'était quelque chose aussi de personnel, d'intime. J'avais envie de travailler avec ma mère parce que j'aime beaucoup son travail. Et je me suis toujours dit que j'aimerais bien faire un film avec elle, comme un peu un film, pas un film collectif, mais en tout cas que qu'il y ait un petit film à l'intérieur du film de ses photos. Donc c'était une envie qui était déjà venue avant ce film-là. Et en fait, d'aller à Beaujon, comme c'est un lieu qu'elle connaît, et c'est un lieu dont on avait beaucoup parlé avec elle, parce qu'il y a une architecture particulière, qui est un lieu quand même que moi je trouve assez beau, malgré sa dureté, comme ça, c'est un peu rustique, mais en même temps... qui surplombe Paris, comme ça, il y a un truc vraiment de son architecture qui est assez intéressante, même les points de vue qu'on peut avoir des chambres, Donc je lui ai demandé si elle voulait bien venir et qu'elle fasse ses photos, qu'elle se balade. Il n'y avait pas du tout d'indication de ma part. À part, on avait discuté, on s'était dit, ça serait bien qu'il y ait un petit film à l'intérieur du film, en photo, et que ça permette aussi de sortir de certaines situations, des fois un peu trop étouffante, quoi.
On a rapidement, évidemment, évoqué votre filmographie ce soir, Nicolas Peduzzi. Avant de conclure cet entretien, on voit quand même qu'il y a quand même déjà des récurrences. Il y a trois longs métrages, mais il y a déjà beaucoup de conflits, de fantômes, de malédictions, de souffrances, bien sûr. Et puis il y a les dédales de Houston ou de l'hôpital Beaujon. Est-ce que vous avez conscience, vous, d'ausculter toujours les mêmes mots, M-A-U-X, de film en film?
J'ai l'impression que ça revient souvent, surtout cette question de la santé mentale qui est là dans Ghost Song et Southern Belle, qui est un peu plus en retrait mais qui est quand même très présente. Et là, je suis allé direct, peut-être un peu plus
directement sur le sujet.
Sur le sujet avec Jamal. Et c'était. C'est vrai que ce pourquoi on souffre comme ça psychiquement. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose quand même d'assez énorme. Quoi. C'est une épidémie. Enfin, autour de moi, je vois, j'ai beaucoup d'amis, de proches qui s'automédicamentent, qui savent pas trop gérer ça. C'est encore très tabou. J'ai l'impression que la psychiatrie, c'est vu comme presque encore vol au-dessus d'un nid de coucou. Et en fait, de voir des gens comme Jamal, Lara, d'autres médecins, ça serait un peu dédramatiser ça, dédramatiser aussi mes propres questionnements. En voyant les gens aussi qu'on filme par résonance, ça fait quelque chose, parce que finalement on est tous humains et c'est des trucs sur lesquels on peut s'identifier, même si c'est bien plus grave.
Alors justement, pour s'identifier, pour dédramatiser, puis pour voir du vrai cinéma, il y a État Limite qui sort mercredi prochain en salle. Alors c'est le 1er mai. Ça tombe bien, c'est férié pour beaucoup de gens, pas nous qui serons en direct, bien sûr. Mais vous pouvez y aller tôt, vous pouvez y aller en nombre, profiter de ce 1er mai pour aller voir État Limite. Merci d'avoir été notre invité.
Merci beaucoup.
Peduzzi.
Merci.
France Culture. Affaires culturelles. Arnaud Laporte.
Voilà 37 ans que les Burning Heads délivrent la ville d'Orléans de la monotonie. Et pourtant, la ville n'a toujours pas construit de statue à leur effigie. Il y aurait de quoi, tant leur punk rock mélodique est une institution de cette ville. Signé un temps sur le label américain Epitaph, glorieuse machine du genre, le groupe, à la formation fluctuante, continue son bonhomme de chemin avec un nouvel album qui paraît sur le plus informel label Kicking, intitulé Embers of Protest. Cet opus contient ce qu'il faut de riff et de révolte, le tout est chanté en anglais. Puisque le punk rock s'écoute avant tout en concert, les Burning Heads présenteront leur album au Petit Bain à Paris le 22 mai prochain. En attendant, voici le morceau phare de l'album Always Hate Goodbyes, c'est notre son du jour.
From you is so muscles meet to fall, leave a bit of sadness here on your lips, wish I kissed and caressed. I always had goodbyes. They bring too much tears to my eyes. They make me cry. I would rather get a chance to say hi. I always had goodbyes. They bring too much tears to my eyes. They make me cry. I would rather get a chance to say. I would rather get a chance to say.
C'était Always Hate Goodbyes des Burning Heads.
France Culture, le grand tour, grand tour. Marie Sorbier.
Bonsoir Marie, où êtes-vous ?
Bonsoir Arnaud, je suis à Giverny dans l'Eure et ce soir nous allons découvrir la toute nouvelle exposition du Musée des Impressionnismes qui veut explorer les liens entre les impressionnistes et la mer, et c'est justement le directeur du lieu qui nous attend.
Bonjour, je suis Cyril Siama, je suis le directeur général et conservateur du Musée des Impressionnismes à Giverny.
Où nous nous trouvons actuellement et on vient d'entrer dans cette nouvelle exposition qui s'appelle « L'impressionnisme et la mer ». Pourquoi avoir choisi ce thème particulier de la mer en cette année où on célèbre les 150 ans de l'impressionnisme ?
Je me suis aperçu que ce thème extrêmement banal n'avait pas été traité dans une exposition en tant que telle. Il y avait souvent des expositions sur les loisirs balnéaires, les impressionnistes, sur la femme, sur le fleuve et les impressionnistes, mais pas sur la mer en tant que telle, alors que le mouvement est né autour d'un tableau iconique, Impression Soleil Levant, qui est une magnifique marine du Havre. Et donc c'est l'occasion de découvrir en fait un thème assez polysémique avec beaucoup de sujets qu'on n'attendrait pas. Et ça permet de découvrir des grands artistes comme Monet, Renoir, Pissarro, certes, mais aussi Mofra ou Moret. Et on a un petit zoom sur la Bretagne et ça c'est assez intéressant, c'est assez stimulant intellectuellement.
Vous nous faites visiter ?
On y va. On a un petit bruit d'eau.
Ah oui, j'entends.
De mouettes.
Pour nous mettre dans l'ambiance.
Dans l'ambiance.
Et on est accueilli par Charles Baudelaire.
Oui, une citation que j'ai tirée de Fusée, qui est le journal intime de Baudelaire. Et ce grand voyageur qui connaissait très bien la Normandie, qui a rencontré Eugène Boudin en 1859 à Honfleur, nous a laissé cette magnifique citation sur les bateaux, ces beaux et grands navires, imperceptiblement balancés, dandinés sur les eaux tranquilles, ces robustes navires à l'heure des œuvres nostalgiques, ne nous disent-ils pas dans une langue muette quand partons-nous pour le bonheur ? Et je trouve que c'est une belle introduction pour l'exposition et puis pour le but d'une exposition, c'est de nous faire voyager, de nous faire rêver.
Et nous faire partir vers le bonheur donc.
Oui, et l'impressionnisme c'est aussi cette idée du bonheur, c'est ce qui rend le mouvement si populaire, c'est qu'on se plonge dans un univers facile d'accès, avec des couleurs chatoyantes, des thèmes très, très larges, beaucoup de paysages sublimes et la marine ça permet évidemment de nous emmener vers le bonheur.
Alors peut-être avant de s'arrêter devant quelques-unes des œuvres, on parlait des 150 ans de l'impressionnisme, c'est-à-dire que le musée d'Orsay a prêté certaines de ses œuvres à pas mal de musées en France. Vous faites partie de cette formule-là. Combien d'œuvres avez-vous du musée d'Orsay ?
Alors là, actuellement, on a 16 œuvres prêtées par le musée d'Orsay, mais nous, on est des grands amis du musée d'Orsay, des petits frères, on va dire. On a un partenariat scientifique avec eux depuis le début. Donc pour chaque exposition, ils nous prêtent des œuvres insignes. Mais là, cette année, c'est vrai que c'est la fête. Et ils ont été très généreux, notamment ils ont prêté des œuvres de Monet ou de Manet qui sont extraordinaires.
Il y
y a une œuvre de Boudin qui est très belle ici, qu'on présente, qui est assez étonnante pour Boudin. C'est que Boudin, c'est le peintre, en effet, de la Normandie. Mais il avait épousé une Bretonne. Et donc, on représente ici le port de Camaret. 1872, c'est l'année de l'impression Soleil Levant. Et on voit bien tout ce que Boudin a apporté à Monet, c'est-à-dire le rapport au ciel, à l'eau. D'ailleurs, Monet a dit qu'il devait tout à Boudin. On le comprend, ils se sont rencontrés près du Havre, près de Honfleur exactement. Et ils ont dessiné ensemble sur les collines. Et ce qui est merveilleux avec cette marine, c'est qu'on est sur un rapport beaucoup plus prégnant du ciel que sur l'eau. Et donc il y a le reflet de la lumière sur le ciel et puis un coup de projecteur à gauche qui représente la chapelle et puis la tour Vauban. Et ça, c'est assez fantastique puisque c'est tout ce que Boudin va apprendre à Monet, c'est le reflet de la lumière sur l'eau. Et juste à côté, on a proposé une œuvre de Maxime Moffra, un effet de lune. Bah, c'est un portrait de lune sur l'eau, format carré, incroyable. C'est certainement l'abbé de Quiberon. Moffra était originaire de Nantes, il avait une maison à Quiberon. Et il a beaucoup fait de marine. Et c'est un peu la deuxième école impressionniste. Après la Normandie, l'impressionnisme part en Bretagne autour de Moffra, Moret et avec l'exemple de Gauguin. Et on voit quelque chose de très très mystérieux. Il n'y a pas de bateau, il n'y a pas de personnage. C'est extrêmement lunatique, oui, exactement, très, très rêveur. Ça, c'est aussi ce qui porte la peinture. Ça nous envoie sur un autre voyage, en fait. Quelques heures qui viennent de loin, on est ravis de les avoir. Il y a en face de nous une section sur les falaises avec un tableau incroyable de Claude Monet. Je trouve qu'il est incroyable. C'est la marée, ouais. La pointe du Petit Haï, marée haute. Au début, on ne comprend pas ce qui se passe.
Non, c'est presque abstrait. De loin, on se demande quelle est cette grande forme.
C'est un triangle rose avec des tuques fragmentées, pointillistes. Tout en bas, on voit une masse un peu triangulaire. Bon, en fait, on s'aperçoit que c'est une cabane de pêcheurs. Et puis à droite, le ciel ou la mer, on ne sait pas trop. On comprend que la falaise est vue en contre-jour, que le soleil tape depuis la gauche et que l'ombre portée se reflète sur l'eau. Et là, on comprend que c'est la mer à droite. C'est très abstrait, ça date de 1897, avec une touche, vous voyez, très très rose, très fragmentée, très pointilliste. Ça annonce vraiment l'abstraction, et je trouve que c'est un tableau totalement hypnotique. Ça demande du temps à comprendre ce qui se passe, et c'est ce que voulait aussi Monet, c'est nous inclure, nous spectateurs, comme acteurs de sa peinture, c'est-à-dire qu'on se pose, on essaie de ressentir les choses, de voir la vibration, de la lumière, de la couleur, et au bout d'un moment, notre œil fait la pointe. Et on se rend compte de ce qu'a voulu représenter l'artiste. Ça demande beaucoup de patience, en fait. Souvent, les gens passent rapidement. Et je crois que ça demande du temps. Une œuvre de Monet, il en a détruit beaucoup. Ceux qu'il gardait, il en était content. C'était pourtant un homme très insatisfait de son travail. Donc, il a pris beaucoup de temps à peindre ce tableau. C'est bien signé, bien daté. Il est content de lui. On sent qu'il y a quelque chose qui est achevé. Et pourtant, c'est... l'abstraction totale, c'est l'inachevé, on ne sait pas où on est, ça flotte. Et nous sommes acteurs de cette peinture, ça je trouve ça très moderne. Voilà. Dans l'exposition, il y a environ 80 œuvres, donc on pourrait rester longtemps.
Oui, et on a envie de s'arrêter devant toutes. Hein, mais...
Oui, il y a beaucoup de choses à voir. On a un film qui représente Honfleur en 1912. Et on a une section sur les tempêtes et les naufrages. Ce n'est pas un thème qu'on aurait pensé aborder par les impressionnistes. Mais il y a quelques tableaux assez saisissants. Puis, on voulait faire un hommage à Courbet, qui n'est évidemment pas impressionniste, mais qui est très proche de l'impressionniste, puisqu'il a pas mal fréquenté Monet. Il a été en Normandie plusieurs fois, d'abord quand il était très jeune. Il vient d'Ornans, hein, mais dans le Doubs. Mais il est venu en 1841 sur les plages normandes. Et puis il est revenu en 1868-69, il a beaucoup peint Étretat, il a peint des vagues, une série de vagues extraordinaires. On en présente deux ici. Celle du centre est une vague crépusculaire, mousseuse, peinte sur un petit format au couteau. On voit que c'est peint de manière...
Petit format, mais c'est un tableau qui est très impressionnant. Hein.
Très, très impressionnant.
Il dégage quelque chose de...
Une force incroyable, une force, je veux dire, tellurique, mais non, c'est presque un autoportrait... ça a certainement été peint, d'après souvenir, quand Courbet était en exil en Suisse. Après la Commune, il a été condamné à l'exil. Et donc, il a peint ici une vague qui est aussi un hommage à la vague de Kousaï, qui était très, très regardée par les impressionnistes. et il y a un ciel orange d'orage qui est assez peu probable pour la Normandie, mais on peut le voir aussi comme un portrait de lui-même, assez angoissé, avec cette vague énorme qui s'abat vers le spectateur dans un déferlement d'écume. Et donc il y a deux traitements, il y a un côté très, très lisse du ciel orangé, et puis quelque chose de beaucoup plus travaillé au couteau pour la vague et l'écume blanche. Donc ça fait une dichotomie dans la toile qui nous emporte en fait.
Et là
ça,
aussi c'est assez proche de l'abstraction, parce que finalement on pourrait voir deux masses s'affronter sans distinguer forcément une vague au départ.
Oui, on ne comprend pas trop ce qui se passe au départ, surtout qu'on ne voit pas trop le soleil. Il y a un soleil couchant certainement qui est au milieu de la toile, derrière la vague. Et cette vague, elle est très inquiétante en fait. Mais c'est quelque chose qui nous subjugue, il y a quelque chose de très cinématographique, il y a un mouvement. Et c'est ça qui est fantastique avec la peinture, c'est d'arriver à créer la vie sur une petite surface carrée. L'œuvre iconique qui est présentée ici et que le musée d'Orsay nous a très généreusement prêté, c'est un tableau d'Édouard Manet, l'évasion de Rochefort. Elle date de 1880-81.
Magnifique
tableau. En fait, on voit souvent ce tableau comme un sujet politique. Henri Rochefort, c'était un journaliste qui avait un journal qui s'appelait L'Intransigeant, qui a été condamné parce qu'il était communard. Il est condamné à être au bagne à Nouméa. Et il réussit une spectaculaire évasion avec 5 complices. Il soudoie un marin et puis ils vont être accueillis par un navire britannique, australien, et partir en Europe. Et ce que représente ici Manet, c'est la fuite. Et ce qu'on voit, ce sont quelques personnages dans une barque, presque au centre du tableau, mais pas tout à fait au centre. Mmh. Et une mer verte, déchaînée, tourbillonnante. Et tout en haut, dans la ligne d'horizon, on voit un tout petit bateau, qui est le bateau de l'espoir. Et donc, c'est à la fois un tableau très politique.
Et ce visage qui se tourne vers nous.
Et c'est Henri Rochefort qui nous regarde. Donc c'est aussi comme une deuxième mise en abîme de la peinture, c'est-à-dire qu'on est spectateur d'une fuite. Et est-ce que la peinture, c'est pas une fuite? C'est aussi ce que nous interroge Manet. Je trouve que c'est un magnifique hommage à la mer. Et ce tableau, il incarne totalement la modernité. On ne sait pas trop où on se trouve. Est-ce qu'on est dans l'eau, sur l'eau, sous l'eau? C'est une œuvre qui est totalement immersive et ça nous apporte vraiment un univers de fuite, d'échappatoire. Que doit être aussi la peinture.
Et cette exposition, on peut la voir jusqu'à quand?
On peut la voir jusqu'au 30 juin.
Très bien, donc on a encore un peu de temps.
Absolument.
Pour venir vous voir.
Il y a beaucoup d'événements aussi qui accompagnent l'exposition, des conférences, des concerts, des lectures. Et on essaie de donner beaucoup de clés de lecture justement au public pour qu'il soit à l'aise avec ce sujet.
Merci beaucoup.
Merci Marie.
Suite du Grand Tour. Lundi, Marie Sorbier, où serez-vous?
Lundi, Arnaud, je serai à Strasbourg, capitale mondiale du livre, pendant un an.
Merci Marie, et à lundi. Cette émission, comme toutes celles de la chaîne, est à écouter ou podcaster sur le site de France Culture ou via l'application Radio France. Émission préparée avec Boris Pineau, Anouk Minaudier, Jules Barbier, Marceau Vassy, Lise Ripoche et Emma Rouberti.